Rugby, présenté par Eve Martin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Aujourd'hui, dans l'Amphi, je vous propose de parler de Taxi Driver, un autre film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il a donc été réalisé par Martin Scorsese et c'est avec Robert De Niro et c'est donc sorti en 1976. Et puis, on parlera aussi de Lana Del Rey, la chanteuse. Avant tout, voici Plastic Beach de Gorillaz avec Mick Jones et Paul Simonon. De pop contemporaine américaine, un nom revient souvent comme une évidence, Lana Del Rey. Depuis le début des années 2010, elle s'est imposée comme une artiste à part, avec un univers immédiatement reconnaissable. Sa voix mélancolique, ses références aux rêves américains et ses chansons lentes et cinématographiques ont profondément marqué la musique actuelle. Mais ce qui rend Lana Del Rey fascinante, ce n'est pas seulement sa musique, c'est aussi la manière dont elle construit un personnage artistique entre glamour, nostalgie et tristesse. avant de devenir Lana Del Rey. Elle s'appelle Elizabeth Grant. Elle grandit dans l'État de New York et commence très tôt à écrire des chansons. Pourtant, ses débuts sont difficiles. Pendant plusieurs années, elle tente de se faire connaître sans véritable succès. Tout change en 2011 avec la chanson « Video Games ». Le morceau devient viral sur Internet grâce à un clip très simple, composé d'images vintage, de vieux extraits, de films et de vidéos personnelles. Immédiatement, le public découvre une artiste différente de la pop énergique qui domine alors les radios. À cette époque, beaucoup de stars misent sur des chansons dansantes avec des productions très électroniques. Lana Del Rey, au contraire, propose des morceaux lents, nostalgiques et presque tristes. Sa musique mélange la pop, le rock indépendant et les influences venant du jazz ou des musiques de films anciens. Elle chante souvent d'une voix douce, presque murmurée, ce qui donne à ses chansons une impression intime et fragile. Son premier grand album, Born to Die, devient rapidement un énorme succès. On y retrouve plusieurs thèmes qui vont traverser toute sa carrière, l'amour destructeur, la solitude, le luxe, la célébrité et le rêve américain. Dans ses chansons, l'Amérique apparaît souvent comme un décor magnifique, mais vide, rempli de motels, de routes infinies, de vieilles voitures et de célébrités brisées. Elle transforme ses images en véritables paysages poétiques. Ce qui distingue Lana Del Rey des autres artistes pop, c'est justement cette dimension cinématographique. Écouter ses chansons donne souvent l'impression de regarder un vieux film. Ses clips utilisent beaucoup de références aux années 50 et 60, les couleurs chaudes, les images granuleuses, les stars hollywoodiennes, les drapeaux américains ou encore les plages californiennes. Tout son univers visuel repose sur la nostalgie. Mais cette nostalgie n'est jamais complètement heureuse. Derrière les images glamour, il y a toujours une forme de tristesse ou de vide. C'est ce contraste qui rend son travail intéressant. Lana Del Rey montre une Amérique idéalisée tout en révélant ses failles. Ses chansons parlent souvent de relations toxiques, de dépendance affective ou du besoin d'être aimée. Pourtant, elle évite généralement les discours directs ou militants. Elle préfère créer des atmosphères et laisser l'auditeur ressentir les émotions. Sa manière d'écrire est également très particulière. Beaucoup de ses textes ressemblent à la poésie moderne. Elle mélange des références à la culture populaire, à Hollywood, à la littérature ou encore à la religion. Dans une même chanson, elle peut évoquer une star de cinéma ancienne, une autoroute américaine et un souvenir personnel. Cette écriture très imagée contribue à son identité artistique. Au fil des années, Lana Del Rey a aussi beaucoup évolué musicalement. Après le succès très orchestré de Born to Die, elle sort Ultraviolence, un projet plus sombre et influencé par le rock. Puis viennent Honeymoon et Lust for Life, où elle développe un style plus contemplatif, plus mature. Mais l'un des moments les plus importants de sa carrière arrive en 2019 avec Norman Fucking Rockwell. Cet album est considéré par beaucoup de critiques comme son chef-d'œuvre. On y retrouve tout ce qui fait sa force, des textes très personnels, une grande richesse musicale et une réflexion sur l'Amérique contemporaine. À travers ses chansons, elle parle d'un monde en crise, de désillusions amoureuses et du sentiment que le rêve américain s'effondre lentement. Ce qui est intéressant, c'est que Lana Del Rey a longtemps été sous-estimée par une partie de la critique. Au début de sa carrière, certains lui reprochaient son personnage très travaillé, ses chansons jugées trop mélancoliques. Mais avec le temps, beaucoup ont reconnu l'importance de son influence. Aujourd'hui, on retrouve son empreinte chez de nombreux artistes plus jeunes, notamment dans la pop alternative et la dream pop. Des chanteuses comme Billie Eilish ou Olivia Rodrigo ont parfois été comparées à elle pour leur manière d'utiliser des émotions plus sombres et une esthétique intime. Lana Del Rey a contribué à rendre populaire une forme de pop plus lente, plus vulnérable et moins basée sur la performance spectaculaire. Son rapport à la célébrité est aussi particulier. Contrairement à beaucoup de stars de la pop, elle semble souvent distante par rapport au monde médiatique. Elle donne l'impression de préférer l'écriture et la création artistique plutôt que l'image de superstar. Cette discrétion renforce encore son mystère. Visuellement, son esthétique est devenue iconique. Les fleurs dans les cheveux, les vidéos rétro, les filtres vintage ou encore les références à l'ancienne Hollywood font maintenant désormais partie de son identité. Mais au-delà du style, il y a une vraie cohérence artistique. Tout son univers parle du temps qui passe, de la mémoire et de la nostalgie. Même sa voix joue un rôle essentiel dans cette ambiance. Elle chante souvent de manière très lente, avec des variations presque théâtrales. Par moments, sa voix paraît fragile et proche du murmure. À d'autres moments, elle devient plus grave et puissante. Cette façon de chanter crée une impression de proximité avec l'auditeur. Aujourd'hui, Lana Del Rey est considérée comme l'une des artistes les plus importantes de sa génération. Elle a réussi à construire un univers unique dans la musique populaire sans suivre complètement les tendances du moment. Son travail mélange la poésie, le cinéma, la musique et la culture américaine dans une œuvre très personnelle. Ce qui explique probablement son succès durable, c'est que ses chansons donnent une place importante aux émotions complexes. La mélancolie, la nostalgie, le désir ou encore le sentiment de solitude. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans cette sensibilité. Finalement, Lana Del Rey est bien plus qu'une chanteuse pop. Elle est devenue une véritable créatrice d'univers. À travers sa musique et son esthétique, elle raconte une vision romantique mais fragile du monde moderne. Et c'est sans doute cette capacité à transformer la tristesse en beauté qui continue de fasciner autant de gens aujourd'hui. Je vous propose alors d'écouter le titre Art Déco de Lana Del Rey, extrait de l'album Honeymoon, si je ne dis pas de bêtises.
Not mean you.
Sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Nous venons d'écouter Doing Time de Sublime. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu, Lana Del Rey en a fait une reprise sur son album Norman Fucking Rockwell, reprise donc du même nom, Doing Time. On va marquer une petite pause musicale après laquelle on parlera donc de Taxi Driver. Voici une reprise encore de Dancing in the Club de This is Lorelei par MG Lenderman.
Lost your love today in a lonely C'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent, je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent, dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Je joue les rouges, cœur, carreau. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline.
D'écouter Caroline de MC Solar. Et comme je l'ai dit au tout début d'émission, on parle donc de Taxi Driver aujourd'hui. Ce film s'est souvent présenté comme un classique du cinéma, et du cinéma américain plus spécifiquement, on va dire. Pourtant, plus qu'un simple grand film, c'est une expérience assez particulière, un voyage dans l'esprit d'un homme seul, perdu dans une ville immense, bruyante et violente. Réalisé par Martin Scorsese et porté par Robert De Niro, le film est sorti en 1976, mais continue encore aujourd'hui à influencer le cinéma moderne. Ce qui frappe d'abord dans Taxi Driver, c'est son ambiance. Dès les premières minutes, New York apparaît presque comme un personnage à part entière. On est loin de la ville touristique et lumineuse. Ici, les rues sont sales, enfumées, éclairées par des néons agressifs. Il pleut souvent, la nuit semble interminable et les taxis glissent dans la ville comme les fantômes. Cette vision de New York reflète directement l'état mental du personnage principal, Travis Bickle. Travis, c'est un ancien militaire devenu chauffeur de taxi de nuit. Il souffre d'insomnie et traverse la ville sans vraiment trouver sa place dans le monde. Il observe les autres sans réussir à créer de véritables liens avec eux. C'est un personnage extrêmement solitaire qui parle peu mais pense énormément. Le film nous plonge dans ses pensées grâce à sa voix off qui ressemble parfois à un journal intime. On comprend qu'il cherche un sens à sa vie mais aussi qu'il développe une vision de plus en plus troublée de la société qui l'entoure. Sans révéler les événements importants du scénario, on peut dire que le grand enjeu du film repose sur cette question. Que se passe-t-il quand une personne isolée n'arrive plus à distinguer clairement ses propres fantasmes de la réalité ? Travis veut agir, devenir quelqu'un d'utile, presque un sauveur, mais il est incapable de communiquer normalement avec les autres. Toute la tension du film vient de cette contradiction entre son désir d'être reconnu et sa profonde incapacité à vivre en société. Ce qui rend le personnage fascinant, c'est qu'il ne l'a jamais présenté comme un héros classique. Le spectateur peut parfois ressentir de la compassion pour lui parce qu'il souffre réellement de solitude, mais en même temps, le film met mal à l'aise car Travis devient progressivement imprévisible. On ne sait jamais exactement ce qu'il va faire. Cette ambiguïté est essentielle. Taxi Driver ne cherche pas à justifier son personnage, mais à montrer la dérive psychologique d'un homme perdu. Visuellement, le film est remarquable. Michael Chapman, le directeur de la photographie, utilise énormément les lumières urbaines, les reflets sur la vitre, les néons rouges et verts, les fumées qui sortent des égouts. Tout cela crée une atmosphère presque irréelle. Certaines scènes donnent l'impression que Travis flotte dans un cauchemar éveillé. La caméra joue aussi un rôle très important. Souvent, elle reste proche du personnage, enfermée avec lui dans le taxi ou dans sa chambre. Cela crée une sensation d'étouffement. Mais parfois, Scorsese choisit au contraire des mouvements très lents et distants, comme si le personnage était observé de l'extérieur. Cette alternance renforce le malaise du spectateur. Le miroir est également un motif visuel central dans le film. Travis se regarde souvent lui-même, comme s'il essayait de construire une nouvelle identité. Une scène devenue culte illustre parfaitement cela. Face à son reflet, il répète des phrases comme un acteur qui répéterait un rôle. Cette scène montre qu'il cherche presque à devenir un personnage de cinéma dans sa propre vie. C'est une idée très moderne, le danger de quelqu'un qui se met à vivre dans une fiction personnelle. Le travail des couleurs mérite aussi d'être souligné. Le rouge revient fréquemment, les enseignes lumineuses, les feux, certains décors. Cette couleur évoque à la fois la violence, la colère et la tension intérieure du personnage. À l'inverse, certaines scènes utilisent des lumières plus froides et pâles qui donnent une impression de vide émotionnel. Mais Taxi Driver ne serait probablement pas aussi marquant sans sa musique. La bande originale composée par Bernard Herrmann est fascinante parce qu'elle mélange deux émotions opposées. On entend souvent un saxophone très doux, presque mélancolique, qui rappelle les films noirs classiques. Cette musique donne parfois l'impression que Travis rêve d'une vie plus élégante ou romantique. Mais en même temps, des sons beaucoup plus inquiétants apparaissent progressivement. Des percussions lourdes, des montées de tension, des notes agressives. La musique accompagne donc la dégradation mentale du personnage. Le son de la ville est aussi omniprésent, les klaxons, les moteurs, les voix dans la rue créent un bruit constant. Même dans les moments calmes, le silence n'existe presque jamais. Cela participe au sentiment d'épuisement du personnage. Travis semble incapable d'échapper au chaos urbain. Un autre aspect intéressant est la manière dont le film montre la violence. Contrairement à beaucoup de films d'action moderne, la violence dans Taxi Driver n'est jamais cool. Elle est brutale, dérangeante et parfois même choquante. Scorsese veut surtout montrer les conséquences psychologiques de cette violence plutôt que de la rendre spectaculaire. Le film parle aussi d'une époque particulière des États-Unis. Dans les années 70, le pays traverse une période de crise morale après la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate. Beaucoup de gens se sentent méfiants envers la société et les institutions. Travis représente ce malaise collectif. Un homme revient du conflit et qui ne parvient plus à retrouver sa place dans le monde civil. Aujourd'hui encore, Taxi Driver reste extrêmement actuel. Le thème de la solitude, de l'obsession ou du besoin de reconnaissance résonne fortement dans une société où beaucoup de personnes peuvent se sentir isolées malgré la présence permanente des autres. Le film montre aussi le danger d'un individu qui s'enferme dans ses propres pensées sans dialogue réel avec le monde extérieur. Ce qui fait la force du film, finalement, c'est qu'il ne donne jamais de réponse simple. Taxi Driver est à la fois un portrait psychologique, une critique sociale et une œuvre sensorielle. Le spectateur ressort souvent fasciné, mais aussi mal à l'aise. Et c'est précisément cette sensation qui explique pourquoi le film est devenu une référence majeure du cinéma. Près de 50 ans après sa sortie, Taxi Driver continue d'impressionner par sa mise en scène, sa musique et surtout par la complexité de son personnage principal. Ce n'est pas un film facile ou confortable, mais c'est un film qui reste en tête longtemps après le générique de fin. Voici donc le thème de Taxi Driver par Bernard Herrmann, qui s'appelle tout simplement Main Title.
Thank you.
C'est déjà la fin de cette émission. On vient d'écouter Isolation de The Psychotic Monks. Vous pourrez réécouter bien sûr cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à demain.
Présenté par Eve Barton.